Notre espérance est en Dieu. Que chacun de nous reçoive de lui la grâce, la miséricorde et la paix. C'est vraiment une joie d'être ainsi rassemblés pour s'ouvrir à sa présence, pour entendre sa parole et pour le célébrer, notre Dieu à tous. Nous chantons Dieu avec le premier chant que vous trouverez dans le petit livret liturgique qui est au début du psautier français. Ô Seigneur, ta fidélité remplit les cieux. J'aime l'Éternel, il entend le cri de ma prière, il incline son oreille vers moi, toute ma vie je l'invoquerai. J'étais pris dans les filets de la mort, retenu dans les liens de l'abîme, j'éprouvais tristesse et angoisse. J'ai invoqué le nom de l'Éternel, ô Éternel, je t'en prie, délivre-moi. L'Éternel est plein d'une juste compassion, notre Dieu est plein de tendresse. Il défend les petits. J'étais faible, il m'a sauvé. Retrouve ton repos, mon âme, car l'Éternel te fait du bien. Désormais, je marche en présence de l'Éternel sur la terre des vivants. Alors c'est ce psaume 116 que je vous propose de chanter maintenant ensemble pour poursuivre dans la louange. Donc la version B, 116B, dans le psautier français. J'aime mon Dieu car il entend ma voix. Les trois premières strophes. Vous pouvez prendre place. Alors bravo à vous d'avoir pris ce temps, le temps dans ce magnifique week-end prolongé de venir au culte. Bravo et également merci, car c'est une joie et une force d'être ensemble ainsi pour un temps de pause, un bain, une gorgée d'eau prise à la source. Bienvenue à Nicolas Cochan, qui est professeur de théologie pratique à la faculté de théologie protestante, qui va nous donner la prédication tout à l'heure. Donc merci beaucoup, Nicolas. Et puis tout particulièrement bienvenue à Eva, qui a demandé à recevoir le baptême parmi nous ce matin. C'est vraiment pour nous un honneur et une joie de vous accueillir. Mais pour l'instant, voici ce que Jésus-Christ nous propose de vivre selon le témoignage de l'Évangile. Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, c'est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et Jésus ajoute, tu l'aimeras avec intelligence. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Avec cette prière du IVe siècle, nous nous tournons vers Dieu pour lui demander son pardon et son aide. Seigneur, convertis-moi et pardonne-moi. Conduis-moi vers toi et éclaire mes ténèbres. Je suis plein de fautes sans nombre et je cherche refuge auprès de toi. Comme à Pierre, tends-moi la main. Je prie comme fit le père de l'enfant malade pour que tu sauves son enfant. Source de vie et d'immortalité, abreuve mon âme altérée, aiguillonne mon cœur endurci, arrache-moi des larmes de vrai repentir. Oui, vraie lumière qui éclaire tout homme, illumine-moi, ouvre les yeux de mon cœur, affermis-le dans l'amour de ton amour. Que je t'aime de tout cœur, de toute mon âme, de toute ma force et de toute mon intelligence. Voici ce que nous dit l'Éternel, même si les montagnes s'effondraient, même si les collines chancelaient, dit l'Éternel, ma bonté pour toi ne faiblira pas et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée, car je t'aime d'un amour éternel. Et voici comment Dieu a manifesté son amour pour nous. Il a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous ayons la vie par lui. Il a envoyé son Fils pour être le Sauveur du monde. Nous chantons à Dieu notre reconnaissance.
pouvez prendre place. Alors, bienvenue, Eva. Vous avez demandé le baptême parmi nous ce matin. Alors, c'est une grande joie pour nous, une joie pour Catherine aussi, et puis pour vos filles, Irène et Olga, qui ont tracé le chemin, puisqu'elles ont été ici baptisées il y a à peu près un an, je pense. Demander le baptême est pour vous un choix délibéré, libre et sincère. Alors j'aime à dire, vous l'avez encore entendu ce matin, qu'une des particularités de Jésus est de nous inviter à aimer Dieu avec intelligence. Alors Eva, c'est votre cas, et même votre intelligence, votre culture riche, ont contribué à vous intéresser à Dieu. Et puis le cœur a fait le reste. Cela, personnellement, me porte à l'admiration et à la reconnaissance et à la confiance dans ce cheminement de vie qui est ouvert devant vous. Oui, Dieu sera avec vous, pour vous, sur ce chemin de liberté. Nous prions Dieu. Seigneur, selon ta promesse, envoie ton souffle de lumière et de vie, et qu'avec le Christ, Eva reçoive de vivre en plénitude et d'être une bénédiction pour ceux qu'elle croisera, dans sa famille, bien sûr, dans son entourage et puis dans ce métier si précieux qu'est l'enseignement. Amen. Alors Eva, je vous invite à venir auprès de ce baptistère pour recevoir le baptême. Eva, je vous baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui Eva, Dieu vous bénit et vous accompagne sur le chemin de votre vie. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance de son souffle de vie. Alors dans la liberté que Dieu nous donne de rentrer ou de ne pas rentrer dans son alliance, puisqu'il donne son amour inconditionnellement, aujourd'hui, Eva, vous répondez à l'amour de Dieu par votre foi en lui. À ce Dieu qui vous dit « Tu es ma fille bien-aimée », vous lui répondez dans votre cœur et aujourd'hui publiquement devant nous tous, en exprimant votre foi. Alors vous avez préparé une confession de foi chrétienne qui sera notre confession de foi pour nous aujourd'hui. Et donc je vous propose de vous lever pour vous associer à cette confession de foi.
Je crois en Dieu, en l'amour et en l'espérance. Cette espérance qui ne s'éteint jamais, qui toujours ressurgit pendant et après chaque tempête, dans la nuit noire des temps obscurs comme dans la douce lumière du printemps. Je crois en Jésus-Christ, porteur de cette promesse d'une aube nouvelle. Je veux aujourd'hui témoigner de cette foi qui fait cheminer vers les autres, qui ouvre les yeux sur les merveilles du monde, sans en cacher parfois la noirceur. Par-delà les doutes, les peurs et les tourments, je crois au souffle et à l'Esprit de Dieu. Je crois en un amour plus fort que la mort. Nous n'avons rien à craindre et tout à espérer.
Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre et d'éternité en éternité. Alors vous pouvez prendre place, sauf Eva qu'on garde encore un petit peu parce qu'effectivement elle a accepté de dire quelques mots sur ce qui est, voilà, sur son cheminement. Alors c'est aussi une occasion pour nous de chercher ce qui peut nous aider à faire des pas de plus, des pas nouveaux dans la profondeur de l'être, dans la réflexion, dans l'engagement. Donc merci, Eva, de ce cadeau que vous nous faites.
Alors venant d'une famille agnostique, la foi ne s'est jamais imposée comme une évidence. Ma grand-mère seule avait la foi du charbonnier, alors qu'ailleurs, la foi s'était un peu évanouie ou échappée. J'ai beaucoup cheminé depuis mon enfance et mon adolescence, j'ai beaucoup lu et appris, sans jamais trouver de porte vraiment ouverte. Le dogmatisme ou les jugements moraux m'ont longtemps retenu de franchir les portes d'une église. Je me sentais proche de la foi réformée, dans le cœur et dans l'esprit, mais il m'a tout de même fallu attendre encore quelques années pour aller frapper à la porte de l'oratoire, si bien qu'au final, mes enfants ont été baptisés avant moi, en ce lieu. Mes filles m'ont décidé à franchir le pas et à répondre à un appel que je ressens depuis ma découverte des évangiles il y a bien 25 ans de cela.
Un grand merci, Eva. Alors Eva, vous avez reçu le baptême, signe de l'amour que Dieu a pour vous, en particulier en Jésus-Christ. Vous avez confirmé cette grâce par votre foi. Nous vous recevons avec grande joie comme membre de l'Église universelle, dont l'oratoire est un simple échantillon. Que le Saint-Esprit affermisse votre foi, vous accorde ses dons et vous les renouvelle de jour en jour. Grand merci, Eva, merci à vous.
Bonjour. Deux paraboles pour la prédication de ce matin, deux paraboles de l'évangile de Matthieu, chapitre 13, deux paraboles bien connues, la parabole du semeur, puis celle de l'ivraie de la mauvaise herbe. D'abord les versets 1 à 9 du chapitre 13 de Matthieu. Ce jour-là, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Il se rassembla auprès de lui de si grandes foules qu'il monta dans un bateau et s'y assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla longuement en parabole. Il disait : Le semeur sortit pour semer. Comme il semait, des grains tombèrent le long du chemin. Les oiseaux vinrent et les mangèrent. D'autres tombèrent dans les endroits pierreux, où il n'y avait pas beaucoup de terre. Ils levèrent aussitôt, parce que la terre n'était pas profonde. Mais quand le soleil se leva, ils furent brûlés et se desséchèrent, faute de racines. D'autres tombèrent parmi les épines. Les épines montèrent et les étouffèrent. D'autres tombèrent dans la bonne terre. Ils finirent par donner du fruit, l'un 100, l'autre 60, l'autre 30. Que celui qui a des oreilles entende. Et plus loin, à partir du verset 24, il leur proposa cette autre parabole. Il en va du règne des cieux comme d'un homme qui avait semé de la bonne semence dans son champ. Pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de la mauvaise herbe au milieu du blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et produit du fruit, la mauvaise herbe parut aussi. Les esclaves du maître de maison vinrent lui dire : Seigneur, n'as-tu pas semé de la bonne semence dans ton champ ? D'où vient donc qu'il y ait de la mauvaise herbe ? Il leur répondit : C'est un ennemi qui a fait cela. Les esclaves lui dirent : Veux-tu que nous allions l'arracher ? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant la mauvaise herbe, vous ne déraciniez le blé en même temps. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Au temps de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord la mauvaise herbe et liez-la en gerbe pour la brûler, puis recueillez le blé dans ma grange. Je vous invite à chanter le cantique 172, cantique 172 dont nous chantons les trois strophes. Prions. Dieu notre Père, ta parole est notre semence. Rends-nous disponibles à ton écoute. Ouvre notre cœur et notre intelligence à ta présence, à cette parole de vie qui vient transformer nos terres arides, qui vient faire fleurir nos déserts, qui vient retourner nos champs de pierre et faire germer du grain en abondance. Nous te le prions par ton Fils Jésus-Christ. Envoie sur nous ton Esprit Saint pour que ta parole devienne pour nous parole de vie. Amen. Comment parler d'une parabole qu'on a tellement entendue qu'on risque de ne plus vraiment l'écouter? Le semeur sorti pour semer, la suite on la connaît presque par cœur, on l'a entendue peut-être dans notre enfance, elle ne nous étonne pas, ou plus. On se dit que tout ce qui est dit là-dedans semble logique et raisonnable, c'est une comparaison de la vie ordinaire. Un semeur sorti pour semer dans un monde agraire comme le monde du premier siècle palestinien ou de Judée-Samarie, c'est normal. Or, il n'en est rien. L'histoire du semeur déraille dès la deuxième phrase. Alors, comment vous le faire percevoir? Bien, je me suis dit que j'essaierais de le faire en entrant pour un petit moment dans la peau d'un personnage anonyme qui aurait pu assister à la scène telle que Matthieu nous la raconte, qui aurait été au bord de la mer à écouter, au bord du lac, à écouter Jésus parler longuement en parabole, nous dit l'évangéliste. Alors je me suis dit que j'imaginais justement quelqu'un qui s'y connaît, un ouvrier agricole ou un petit paysan. Écoutons-le donc, cet homme de la terre qui entend Jésus parler de la terre. J'ai bien compris que Jésus parlait d'autre chose que de culture, du règne de Dieu. Il parle d'autre chose que de blé, il parle de Dieu, de la parole de Dieu et du règne de Dieu, comme les autres paraboles d'ailleurs. Et ça doit parler d'autre chose parce que sinon son histoire, elle ne tient pas la route du point de vue de la culture du biais, mais pas du tout. Le semeur, ce semeur dont il parle, il sème n'importe comment. Ce qu'il fait, c'est un gaspillage énorme. Avec lui, c'est la famine à coup sûr et la faillite au bout de l'année. Parce qu'il en jette partout de son grain. Partout, sauf où il faudrait. Sur le chemin, dans la terre caillouteuse, dans les ronces. Je vais vous dire, un bon semeur, avec, disons, un sac de grains, il va récolter environ 8 sacs. Dans les bonnes années, 10. Donc avec un sac de grains, il va récolter, disons, 8 à 10 sacs, et il va en garder un, évidemment, pour les prochaines semailles. Un autre servira à payer les journaliers, comme moi. Il va en garder 2 pour se nourrir, lui et sa famille, 3 les bonnes années. Il y en aura 2 qui seront consacrés à toutes les taxes qui pèsent sur lui. Alors il lui en restera 1 ou 2 pour aller vendre au marché ou échanger contre autre chose. Et puis il en gardera un dernier pour le jour où il ira au temple pour un sacrifice, parce que ça aussi, ça coûte. Alors soyez sûrs, mes amis, que quand on sème, on fait attention. On ne jette pas le grain n'importe comment comme dans cette histoire. On fait attention parce que le grain est précieux. On est prudent. Parce que, comme on dit, le blé, ça a eu payé, mais ça ne paye plus. Bon, ce semeur, ce qui le sauve, c'est que le peu qu'il a semé en bonne terre donne à fond. Un rendement invraisemblable. Un épi qui donne 100 grains, ça n'existe pas. Pas plus qu'un épi qui en donne 60. Même un épi de 30 grains, c'est du jamais vu, comme je l'ai dit. 8 sacs pour un sac, donc un épi, c'est 8, 10, 12 grains. Alors oui, cette parabole, il fallait avoir des oreilles pour l'entendre. Moi, elle m'a ouvert les oreilles. Et j'ai compris que le règne de Dieu, ça ne se calcule pas.
Ça se reçoit.
Comme une pluie bienfaisante qui fait germer le blé et porter du fruit. Le royaume, le règne de Dieu, il pleut sur nous. Il tombe sur la pierre de notre chemin, dans les épines qui tapissent notre cœur, dans l'impureté de nos sillons de vie. Il en pleut de sa parole de vie, et il suffit d'un rien pour qu'elle explose en nous. Alors oui, le règne de Dieu, j'y crois parce que j'ai compris qu'il était déjà là. Alors, j'ai peut-être les mains calleuses d'avoir travaillé la terre. J'ai la nuque un peu raide d'avoir trop porté de cailloux retirés du champ. J'ai le cœur un peu endurci d'avoir été considéré comme un impur. J'étais fatigué, à vrai dire, et pas du tout à l'aise dans cette foule, mais mes oreilles ont entendu, je me suis redressé et j'ai regardé, j'ai vu. J'ai vu le sourire sur les visages marqués, la joie dans les épaules redressées, la paix dans les yeux qui s'ouvraient. J'ai vu des frères et des sœurs. J'ai vu le règne de Dieu à l'œuvre au cœur de notre impureté. J'ai vu sa parole de vie germer dans notre terre ingrate. Et j'ai compris que jamais je n'en manquerai. Entende qui a des oreilles. Alors quittons notre laboureur et quittons le semeur. Et reprenons la même question, comment parler d'une parabole qu'on n'écoute plus vraiment tellement on l'a entendue? Question posée pour le semeur, on pourrait la reprendre pour cette nouvelle parabole de l'ivraie, de la mauvaise graine. Après la parabole du semeur, donc voici celle de l'ivraie et du bon grain. C'est le même chapitre de Matthieu, le chapitre 13, qu'on appelle à juste titre le discours en parabole, puisque c'est une succession de petites histoires de paraboles, toutes plus connues les unes que les autres. Après celle du semeur et celle de la mauvaise graine dont on va parler là, il y a encore celle du grain de moutarde, tout petit, et qui donne un grand arbre. La parabole du levain, un petit rien qui fait lever toute la pâte. Et plus loin encore, l'histoire du trésor trouvé dans un champ, ou encore la perle de grande valeur pour laquelle on vend tous ses biens. Alors il y a des moments différents dans ce discours. Au début, il s'adresse à tous, en particulier l'histoire du semeur, et plus loin, il s'adresse aux seuls disciples, mais nous qui sommes lecteurs, eh bien, nous avons l'ensemble. Et tout ce discours, c'est une suite cohérente. Avec le risque toutefois que, ben justement, qu'on n'écoute plus vraiment les paraboles. D'autant plus qu'il y a, après le semeur et après l'ivraie, une explication de ces paraboles, du moins ce qui a l'air d'être une explication, qui certes est en lien avec la parabole chaque fois, mais qui l'a fait évoluer vers une nouvelle parabole. Donc écoutons ce qu'essaye de dire celle de la mauvaise graine de l'ivraie. Elle se trouve uniquement chez Matthieu, celle-ci. Et je crois qu'elle résonne comme un contrepoint de celle du semeur. Le semeur, on l'a entendu du laboureur, elle met l'accent sur deux excès. Excès de semailles, répandu en abondance. Et excès de résultats, qui fait exploser, le peu qui a germé fait exploser tous les rendements. Le semeur nous dit l'excès de la grâce, La grâce abonde. Elle produit des fruits en nous, des fruits en abondance, en dépit de tous les terrains défavorables qu'elle rencontre. La grâce surabonde, comme a écrit l'apôtre Paul. La parabole de l'ivraie de la mauvaise graine, de son côté, nous rappelle l'ambiguïté de l'expérience humaine. L'ambiguïté même de l'expérience de la foi en nous. Individuellement, le fruit espéré de la foi coexiste avec la présence désagréable de fruits indésirables. Le désir de Dieu cohabite avec toutes sortes de mouvements incontrôlés en nous. Dans nos relations et en communauté, en Église, les fruits de la grâce aussi doivent souffrir de la présence d'expressions opposées. Et notre désir de paix, d'accueil inconditionnel, se heurte parfois à l'expérience concrète, au contraire. Nous souhaitons former une communauté accueillante, nous mettons l'accent sur l'accueil, et voilà que parfois nous échouons. Une parole de paix se transforme en cri de colère, et ça m'arrive à moi le premier. Et notre expérience de la grâce, aussi bien personnellement que communautairement, nous engage à prendre conscience de tout ce qui, en nous et entre nous, demeure obscur, de tout ce qui reste à exposer en nous et entre nous à la grâce transformatrice. L'expérience de la foi nous amène aussi à prendre conscience du fait que nos meilleures intentions se retournent parfois contre nous ou contre notre prochain. Pour le plus jeune comme le plus âgé, le novice comme l'accompli, pour le paroissien discret comme pour le prédicateur, il y a un moment du culte fondamental, tous les moments d'ailleurs, mais il y a un moment fondamental, c'est ce temps de prière, de repentance, de confession, un moment essentiel pour nous placer à nouveau sous la grâce, parce que l'ivraie est là aussi. La mauvaise graine est là, toujours là. Et vous connaissez peut-être, ou certainement, l'expression « semer la zizanie », la discorde. Elle vient de la parabole. Comme beaucoup d'expressions dans notre langue française, on ne le sait plus, viennent de la Bible, eh bien, le mot qu'on traduit par « mauvaise graine » ou « ivraie » en grec, c'est « zizania ». Ça viendrait apparemment du sumérien « zizane ». C'est dans ces régions qu'on a commencé à cultiver le blé. C'est un mot pour désigner apparemment quelque chose qui ressemble au blé, mais qui n'est pas bon. Et les traducteurs latins ont repris tout simplement le mot « zizania » et cette entrée progressivement dans la langue française. Donc cette parabole nous dit qu'il y a dans le champ semé de bonnes graines de la zizanie, de l'ivraie, de la mauvaise graine qui pousse. Cette parabole, elle nous situe, vous l'avez peut-être entendu, dans le temps. Elle nous dit que le maître a semé et que pendant que tout le monde dormait, de la mauvaise graine a été plantée et qu'elle a poussé. Elle nous raconte l'histoire et elle nous raconte la réaction des serviteurs de ce semeur, de ce maître de maison, qui voudrait faire le tri, mais qui voudrait savoir d'abord comment ça se fait. Et donc l'histoire nous dit que la moisson viendra, mais qu'on n'y est pas encore. Et nous nous trouvons donc exactement comme les serviteurs de l'histoire, devant le constat d'un champ où tout ce qui pousse n'est pas bon, Et comme les serviteurs, nous nous tournons vers le maître pour comprendre, pour lui demander des explications. Mais est-ce que tu n'as pas planté de la bonne graine ? Seigneur, nous nous plaçons sous ta grâce. Et voici que l'expérience est mitigée. Elle s'avère même parfois douloureuse, car malgré tous nos efforts, malgré notre bonne volonté, nous nous retrouvons parfois à grincer des dents, alors que nous avons été appelés à la joie, à maugréer, alors que nous désirions entendre et dire des paroles de paix. Comment cela se fait-il ? Remarquons que la parabole ne s'intéresse pas vraiment à la question de l'origine. Le narrateur nous dit, c'est un ennemi qui a fait ça, et c'est ce que dit aussi le maître à ses serviteurs, à ses esclaves, oh, c'est un ennemi qui a fait ça. Quel ennemi ? Comment ? Pourquoi ? Peu importe finalement. Son identité n'est pas révélée dans la parabole. Ça se passe pendant qu'on dort. Nous ne sommes pas dans cette parabole au temps des semailles. Il y aurait une illusion qui serait de croire que si nous prenions bien garde, que nous planifions bien nos actions, que nous contrôlons tout, que nous surveillons bien, que nous mettons en place des procédures de qualité, tout ira bien. Nous éviterons l'apparition de la mauvaise graine. La parabole nous laisse à entendre que ce désir de perfection est une illusion. Bien sûr que nous sommes invités à faire au mieux, à conduire notre vie et nos actions dans un esprit évangélique. Qu'à cela ne tienne, la perfection n'est pas à notre mesure. Mais la grâce est toujours plus grande, toujours plus forte, toujours plus riche que nos errements. Nous ne sommes pas au temps des semailles, et finalement le maître de maison donc ne répond pas vraiment au serviteur. Il n'explique pas la présence de l'ivraie, il en prend acte, c'est tout. Et nous ne sommes pas au temps de la maçon, et si nous sommes comme les serviteurs, eh bien dans l'histoire, nous ne sommes pas non plus les moissonneurs. Les serviteurs manifestent leur zèle et cherchent une solution au problème. Il y a de l'ivraie, enlevons-la. Il y a un problème, évacuons-le. Prenons garde toutefois aux solutions trop évidentes. Elles ont pour risque d'arracher du bon grain avec la mauvaise herbe. Et qui n'a jamais éprouvé le désir de se purifier, d'éliminer les impuretés en soi. J'ai l'impression que c'est très fort aujourd'hui pour chacun de nous. J'ai l'impression que la pub sur le bien-vivre, le bien-être, elle joue là-dessus, elle nous touche là. Pourtant, le temps de la moisson n'est pas venu. Et en plus, nous n'en avons pas la responsabilité. Nous connaissons les visages multiples du mal. Nous connaissons ses chemins, nous sommes avertis. Nous savons ce qu'il ne faut pas faire. Nous savons ce que nous avons à faire dans notre vie, dans nos relations. Et pourtant, il survient, il arrive. Le champ de blé est parsemé de mauvaises herbes. Et de plus, l'ivraie a ceci de particulier qu'elle ressemble au blé, sauf qu'elle n'est pas bonne. Alors on dit « je ne voulais pas ». Défense et excuse puériles de toujours. « Je ne voulais pas ». Que c'est dur d'admettre l'imperfection, le raté, la maladresse. Et notre vie chrétienne est jalonnée de ces moments où la présence de l'ivraie se fait sentir. Mais nous sommes alors invités à nous retourner vers le semeur, à nous placer toujours à nouveau sous la pluie de grâce qui pleut sur nous en abondance et qui explose dans notre vie, qui germe et qui porte du fruit dans la bonne terre qu'elle rencontre, parce que du bon fruit, il y en a aussi, parce que le semeur sème encore et toujours, il nous offre sa grâce. Amen.
Et nous vous proposons de poursuivre avec le chant du cantique 308. Confie à Dieu ta route, Dieu sait ce qu'il te faut. Donc les trois premières strophes de ce cantique 308.
Thank you.
pouvez prendre place pour quelques annonces. D'abord, un grand merci à Nicolas Cochon, donc, pour ce qu'il a semé en nous aujourd'hui avec cette prédication. Grand merci à Aurélien qui est à l'orgue et qui nous a réjouis, donc en particulier avec cette belle pièce de Jean-Sébastien Bach. Et puis merci aux personnes qui ont préparé, donc il y a toute une équipe de lutins de Noël qui a préparé un pot d'accueil magnifique derrière la porte en bois qui est au fond. Et ça nous permettra d'avoir un temps, voilà, ensemble, pour ceux qui auraient encore quelques minutes, pour que nous puissions échanger, partager, découvrir, nous accueillir mutuellement. Donc c'est un moment aussi qui est important. Il y a nos groupes de grec biblique qui ont lieu donc lundi et mardi prochain, les progressants lundi à 19h30 et puis les débutants, un peu moins débutants maintenant, mardi à 19h30, grâce à Aurore Mériot, donc qui anime ces deux groupes. Mercredi à 19h30 aussi, donc tout ça se passe en face à la maison presbytérale. Donc il y a le groupe d'étudiants et jeunes actifs, donc c'est 18-35 ans, quelque chose comme ça, avec un dîner partagé et puis un débat sur le thème du jour, Dieu joue-t-il au dé? Samedi, il y a un temps où vous pouvez aller chanter avec le chœur pour apprendre les cantiques du dimanche et pour participer aussi donc, au soutien de l'assemblée, le culte donc, du lendemain. Donc c'est samedi à 17h, la répétition aura lieu ici même. Donc l'entrée est par le 1 rue de l'Oratoire, la petite porte de service. Et puis donc dimanche à 10h30, il y a le culte de Pentecôte. Nous avons en particulier la joie d'accueillir les jeunes qui ont choisi de faire une profession de foi. Et donc ça sera un culte, voilà, où nous partagerons aussi, pour ceux qui le désirent, la communion. Et puis dimanche, après ce culte, il y a un repas de paroisse, le dernier repas de paroisse de l'année. Et puis, comme chaque année, eh bien, c'est un thème malgache, puisqu'effectivement, nous sommes en lien fraternel avec la paroisse d'Amparibé à Tananarive. Et donc, c'est préparé par les amis d'Amparibé. Pour faciliter la préparation de ce repas de paroisse, merci, si c'est possible, de vous inscrire soit à la librairie à la sortie, soit pendant la semaine au secrétariat. Maintenant, c'est le moment de l'offrande. Alors, nous recevons tout gratuitement de la part de Dieu. L'offrande est une manifestation de notre louange, de notre gratitude envers Dieu. Et puis aussi, ça permet à l'Église, en notre nom à tous, et bien de témoigner de l'Évangile dans ce monde qui en a tant besoin. En pensant à ceux qui souffrent, quelle qu'en soit la raison, je vous invite à vous unir dans cette prière de Kierkegaard. Seigneur, je voulais tout abandonner, je voulais céder à la souffrance, je voulais choisir le chemin le plus facile, le désespoir. Mais toi, tu n'as jamais perdu patience. Tu as supporté toute une vie où tu as souffert pour me sauver aussi. Alors je t'apporte ma peine, mets en moi ta joie. Je t'apporte ma solitude, mets en moi ta présence. Je t'apporte mes conflits, mets en moi ta paix. Je t'apporte mes échecs, fais germer en moi ton avenir. Oui, notre Dieu à tous, quel que soit le nom que nous te donnons, aide-nous à reconnaître ceux que tu nous confies pour que nous les aidions à vivre, à se reconstruire et à avancer. Rends-nous sensibles à ce qui les fait souffrir sans les juger. Détresse, de la peine, de la solitude, de la déqualification, de la maladie, de l'emprisonnement. Mais unis dans une même foi en toi, nous nous unissons du cœur à cette prière que le Christ nous a confiée et qui fait de nous tous les fils et les filles du même Père, de la même Mère que nous avons dans les cieux. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas enfermer dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et nous recevons directement au plus profond de nous-mêmes la bénédiction de Dieu sur notre personne et sur notre existence tout entière. Que l'Éternel te bénisse et qu'il t'accompagne. Que l'Éternel fasse briller sur toi sa lumière et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel lève son visage vers toi et te donne la paix. Béni sois-tu, ô Dieu, source de vie, de mouvement et d'être. Amen.